Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et venez nous rejoindre. Racontez-nous votre Montpellier. Impossible d'ignorer mon invité d'aujourd'hui. Impossible de ne pas lui proposer de nous raconter son Montpellier. En effet, quelle est son activité la plus marquante? Les visites comptées de Montpellier qu'il propose. Donc merci Benoît Ramos d'être venu au micro de Divergence FM. Vous avez un goût avéré pour l'histoire, comme le démontre votre licence décrochée à l'université Paul Valéry et votre travail actuel de professeur d'histoire à 7 au GRETA, pour ceux qui ne connaissent pas, groupement d'établissements d'enseignement public qui propose des formations destinées aux adultes. Vous avez aussi un penchant pour l'imaginaire et pour l'expression devant un public, puisque vous avez été comédien pendant une vingtaine d'années et que vous êtes aujourd'hui guide-conteur. Dans la même veine, vous tenez depuis fin octobre une chronique mensuelle dans la Gazette. Benoît Ramos, nous allons voir comment se conjuguent ces différents aspects de votre personnalité. Alors, vous le savez, la formule de cette émission, au moins dans sa première partie, est de proposer à l'invité de parler de sa vision de Montpellier. Je vais vous prier de le faire, non pas avec la casquette, je ne dis pas ça par hasard, de guide professionnel, mais avec celle du simple habitant, du Montpellierain de base, même s'il est difficile, j'imagine, de distinguer l'un et l'autre. Donc, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché, vos lieux que vous aimez peut-être presque secrètement?
Forcément, ça fait quand même maintenant presque 30 ans que j'habite Montpellier, donc il y en a pas mal. Il y a beaucoup de lieux avec lesquels j'ai un attachement sentimental parce que j'y ai des souvenirs.
Ouais, c'est lié à votre parcours.
Gens. Exactement. Je vous mentionnerai l'Antirouille, par exemple,
oui.
Où j'ai beaucoup joué en
rue
improvisation.
Rue du Grand-Saint-Jean.
Oui. Exactement, là, juste à côté de Saint-Denis, à une époque où c'était tenu par le légendaire Jacky Duverger.
Voilà, qui était un lieu important de spectacles, de concerts.
C'est ça, et de théâtre aussi. On y jouait avec ma compagnie, on écrivait, montait, jouait, produisait une pièce par mois, plus des spectacles d'impro. Ou c'était la folle jeunesse, c'était chouette. Il y a d'autres endroits comme ça. Il y a la rue des Multipliants, une petite rue du quartier Saint-Roch, où il y a une de mes histoires préférées qui s'est passée, peut-être qu'on en parlera après, mais avec laquelle j'ai un grand attachement parce que il y avait à une époque, là, un café qui s'appelait l'Odyssée, un bar qui s'appelait l'Odyssée. Et dans la cave, c'est là que j'ai fait du conte devant des gens pour la première fois. Donc j'ai toujours un petit pincement quand je passe par là. Et sinon, alors c'est beaucoup plus carte postale, hein, très probablement, mais quand même, je reste...
Difficile de les éviter complètement.
C'est ça, je reste un grand amoureux du jardin botanique, qui est l'endroit... où on peut se ressourcer dans le centre historique.
Le jardin des plantes, donc, qui est un lieu de rêverie, peut-être.
Exactement, exactement. Et il y a un endroit particulièrement dans le jardin qui est vraiment un petit passage, pas très loin de l'observatoire astronomique, où là, il y a une espèce de cabane faite de roseaux. Et il y a des bancs qui sont juste des rondins, des troncs d'arbres posé au sol, et c'est là vraiment j'ai l'impression qu'on, quand on y est, c'est même plus si on est à Montpellier.
Ah oui, ça dépayse en plus.
C'est ça, mais on n'entend plus la ville.
Ah oui, parce que c'est assez éloigné du boulevard Henri IV, du coup, et on est épargné par les bruits, les rumeurs de la ville.
Et c'est ça, il y a beaucoup d'arbres qui cachent, qui masquent les bruits. Alors évidemment, hein, on entend toujours un petit tramway au loin, mais on peut facilement oublier qu'on est en plein cœur d'une ville de 300 000 habitants quand on est là.
Très bien, voilà. Donc, d'ailleurs, ce jardin des plantes, il est souvent cité par mes invités. Bon, il est parfois ignoré, mais bon, vive le jardin des plantes. Alors, dans la même veine, quand vous recevez des amis ou des parents de passage, qu'est-ce que vous leur dites de Montpellier? Ils arrivent probablement avec une certaine image de Montpellier, réelle ou un peu fantasmatique, ou produite par la communication.
Alors, en ce qui concerne ma famille, pas tant que ça, parce que même si je ne suis pas né à Montpellier...
Vous êtes arlésien, c'est ça?
C'est ça, je suis né à Arles. Mais mes parents se sont rencontrés à Montpellier, en fait. Mes parents ont fait leurs études ici.
C'est la ville de l'amour, donc.
Exactement. Mon père fait partie des rapatriés qui sont arrivés en 62. Il est arrivé faire ses études ici. Il a rencontré ma mère ici. Ma sœur est née à Montpellier. Et c'est quand il a commencé à faire sa carrière qu'il a déménagé donc, dans les Bouches-du-Rhône où je suis né. Donc j'avais déjà une connexion avec Montpellier et ma famille, une bonne partie de ma famille connaît déjà Montpellier, donc j'ai pas grand-chose à leur faire découvrir. Mais en ce qui compte...
Des amis qui arrivent d'ailleurs, quoi, qui débarquent, j'imagine que ça peut arriver que vous accueillez ces...
Bien sûr, la première chose qui les étonne la plupart du temps et que je leur montre, c'est à quel point la ville, dans sa population, quand on marche dans les rues, est jeune.
Ouais.
Même si beaucoup de gens ont cette image du Montpellier étudiant... Peu de gens se rendent compte de ce que ça veut dire quand on marche dans les rues.
C'est visible dans la ville.
Exactement, d'avoir un quart de la population qui a moins de 25 ans, en fait. Et moi, je leur montre, en fait, je leur montre les cuissons, bien sûr, parce qu'il n'y a rien de mieux pour moi pour commencer à appréhender Montpellier que de se perdre dans les petites rues de l'Écusson. Sans explication, on marche...
Oui, c'est pas tout à fait la même chose que quelque chose d'organiser un parcours.
C'est ça.
Dont on va parler précisément dans quelques minutes. C'est voilà, cette déambulation au hasard des rues. Quoi.
Et profiter des terrasses. Et finalement, les terrasses, il n'y a rien plus montpelliérain que de prendre un café en terrasse. Hein.
Très bien. Alors, un peu dans le même ordre d'idées, est-ce que vous avez une manière de... Vous l'avez un peu dit, là... de raconter Montpellier, le style montpelliérain, bon, par rapport à d'autres grandes villes, métropoles, comme on le dit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui singularise Montpellier, à vos yeux?
Alors oui, et c'est beaucoup à l'origine de ce que je fais. Si on fait visiter le Montpellier historique, on se retrouve finalement face à une espèce d'écueil qui est que on doit beaucoup utiliser l'imaginaire des gens, parce qu'on va beaucoup raconter des choses et parler de choses qui ne sont plus là.
Qui ne sont pas visibles, y compris sur le plan patrimonial ou architectural.
Un exemple très facile, si vous allez place Jean Jaurès, vous aviez là la plus importante église de l'histoire de Montpellier, l'église Notre-Dame-des-Tables, qui a fait la richesse de la ville avec sa relique, avec donc la Majestat Antiquat, qui était l'étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui attirait des gens de presque toute l'Europe, et qui n'est plus là. On en devine le fond du cœur sur les marches qui sont d'un côté de la place.
Et on voit Notre-Dame-des-Tables sur le blason historique de la ville.
Complètement. Pareil pour qui est aussi sur le blason, pour la commune clôture, nos anciennes fortifications, dont il reste deux tours et une porte. Et quand on parle donc de cette ville, c'est une ville médiévale où le Moyen-Âge est discret et il faut le rêver et il faut le chercher.
Le rêver et le révéler aussi en même temps, au hasard.
C'est ça. En montrant quelque chose qui est typiquement montpelliérain, que j'adore montrer aux gens, ce sont toutes ces anciennes marques des anciens bâtiments médiévaux dans les bâtiments qu'on voit d'aujourd'hui, comme dans le quartier Saint-Roch ou le quartier Sainte-Anne, vous aurez plein de bâtiments où vous verrez les traces des anciennes fenêtres médiévales, parfois une petite statue, la marque d'une arche, et entrer dans les magasins et retrouver là les arches médiévales, voyager dans le temps juste en franchissant le seuil. Dans de nombreux magasins, restaurants de la ville. Dès qu'on entre, on est au Moyen-Âge. Dès qu'on sort, on est entre le XVIIe et le XIXe siècle.
Alors, on est déjà sur les chemins, les parcours que votre activité propose. Une dernière question à un caractère plus général, peut-être pour le coup, avec le regard de Montpellierain depuis 30 ans. Quel regard vous portez sur la mutation de la ville, sa croissance, ses changements? Certains les voient plutôt positivement, d'autres de manière... plus inquiète, hein, et quel est votre propre point de vue là sur une ville qui a beaucoup grandi, dont la population a beaucoup grandi, qui était même un record de croissance de population, en tout cas jusqu'au 2010, quoi, grosso modo.
C'est très contrasté parce que bon, je me méfie du syndrome du c'était mieux avant. J'ai comme plein de gens qui habitent depuis longtemps dans un endroit, j'ai toujours le petit filtre mélancolique de mes époques étudiantes. Mais il y a quand même, j'ai observé, alors est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif globalement, une gentrification un peu du centre historique, notamment de la population,
oui.
Passer d'une ville qui avait un peu la réputation, notamment à l'extérieur, d'être une ville un peu hippie, quelque part,
oui.
À une ville un peu bobo.
Oui. Avec peut-être un point commun me semble-t-il, un certain hédonisme, comme une manière de vivre, dans des sociaux styles, comme on disait, publicitaires différents, les bobos et les entremis et les hippies, mais qui ont peut-être ce rapport à Montpellier, le soleil, la proximité de la mer, etc.
C'est ça. Et en fait, cette évolution, à la fois, il y a quelque chose que je regrette et il y a quelque chose que j'aime bien, c'est... Montpellier a toujours été, j'ai toujours connu comme une ville très culturelle, mais qui de plus en plus essaie, et on le voit maintenant avec évidemment notre candidature à capitale européenne de la culture, qui essaie de rayonner et d'avoir un rayonnement culturel national, mais parfois et souvent qui se fait au détriment de la culture de proximité, de mon point de vue.
Oui.
Je l'ai beaucoup vu, notamment, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis qu'existent les ZAT, où au tout début il y avait...
En zone artistique temporaire, qui depuis... grosso modo une dizaine d'années, quartier différent chaque année, et sur une huitaine de jours, un certain nombre de culturels tous ordres, des spectacles, des performances et autres. Quoi.
Et je me souviens de son prédécesseur, de la Proto-Zet, qui était Quartier Libre, qui avait été créé par Georges Frêche au lendemain des premiers grands mouvements intermittents, et qui avait eu une vocation de reconnecter les artistes de la ville avec la population, en faisant des spectacles de rue, des spectacles de quartier, mais uniquement avec des compagnies locales.
Avec les talents locaux.
C'est ça.
Quartier libre au pluriel, je précise.
Complètement. Et la ZAT, c'est presque l'inverse. La ZAT sait faire venir des grosses compagnies de spectacles de rue prestigieuses qui attirent les gens, mais qui laisse peu de place aux talents locaux, au final, sauf à la marge, sur des initiatives où les populations des quartiers, ce qui est super, préparent un spectacle avec des artistes, mais qui sont quand même dans la communication, notamment, beaucoup moins mises en avant.
Et plutôt dans le off que dans le in, comme on dit.
D'une certaine manière, d'une certaine manière. Et donc, à la fois, c'est très positif d'avoir ce rayonnement, mais je trouve dommage que souvent, ça donne l'impression que ça se fasse, qu'il y ait une espèce de peut-être... de penser un peu parisianiste dans le sens il faut voir national et donc ce qui vient d'ici
c'est-à-dire le prestige ou la notoriété de ces artistes, de ces troupes vous paraît, comment dire, prévaloir sur une attention plus effective aux talents locaux, on peut
c'est
le résumer
un peu ça,
comme ça
c'est un peu ça et des talents locaux qui sont eux-mêmes très très bons et parfois d'ailleurs on avait quand même
un rayonnement qui dépasse
complètement
qui dépasse les cuissons
complètement ben même qui dépasse la métropole et qui tourne très bien voilà c'est pour ça que je saurais pas dire si c'est positif ou négatif c'est une évolution vous savez moi j'ai toujours un peu ce réflexe d'historien je mets
une
très
prise de
longtemps
recul, quoi.
C'est ça je mets très longtemps à essayer de poser un jugement parce que je méfie du jugement
hâtif
et épidermique mais voilà, il y a ces deux choses qui sont là.
Alors, on a déjà abordé le sujet principal de votre venue à ce micro, mais on y vient directement maintenant. Cette idée de visite comptée, comment vous est-elle venue ? Quel a été, le déclic ? J'écarte l'hypothèse, ce que chacun peut comprendre, que ça peut constituer pour vous une ressource complémentaire, ce qui est bien sûr on ne peut plus normal, mais quel a été le ressort de cette initiative ?
Ça a été un cheminement. Et je pense que la première étape, ça a été tout simplement de voyager et d'aller faire des visites comptées dans d'autres pays et dans d'autres lieux.
D'accord.
Je prends Comté au sens général du terme. Ce n'est pas forcément Comté où on raconte des mythes et légendes et des fables. La première qui m'avait vraiment marqué, c'était à Dublin, où j'avais fait une visite avec un local qui était dont l'axe principal était... les Irlandais sont très mauvais pour se révolter contre les Anglais. C'était une histoire de toutes les révoltes ratées et avortées des indépendantistes
donc,
irlandais.
C'est une espèce d'histoire, de contre-histoire ou de regard lucide sur ces échecs.
C'est ça, lucide et amusé. Et c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup voulu apporter. Moi, je suis très anglophile, globalement. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la mentalité anglo-saxonne, dans la mentalité britannique au sens large, c'est l'autodérision. Les Anglais, les Irlandais, les Écossais savent très bien se moquer de leur propre histoire, savent très bien rire avec bienveillance de leurs petits travers. Et je trouve qu'en France, on a beaucoup de mal avec ça, surtout dans le tourisme, surtout par rapport à notre histoire, surtout par rapport à notre héritage culturel.
Et dans cette distance-là critique, mais comment dire, bienveillante. C'est ce qui vous avait frappé là, bon, à Dublin.
Exactement. Et quand j'ai vraiment songé à me reconvertir parce que je n'arrivais plus à vivre de mon métier de comédien, bah, je me suis rappelé que j'étais conteur et que je pouvais mixer les deux et qu'il y avait, en étant extrêmement pragmatique, également un créneau à prendre. Oui. C'est quelque chose qui se fait très peu en France. Vous avez évidemment ça en Bretagne, parce que la culture de l'oralité, du conte, la tradition arthurienne est très présente. Vous avez une grosse compagnie qui m'a beaucoup inspiré, qui fait ça à Lyon, qui s'appelle Cybelle. Vous en avez un peu à Paris, et après...
Ah oui, donc c'est un genre qui n'a pas fait floresque. Ouais.
Non, qui n'est pas, on va dire, dans notre culture touristique de base.
D'accord.
Parce que nous, traditionnellement, culturellement, on aime le pur et dur histoire de l'art, les grands personnages, les grands monuments, la grande architecture. Et moi, j'aime bien...
La grande culture française avec des capitales partout, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et moi, je trouve que s'attacher à un lieu, ça ne vient pas comme ça. Ça met de la distance, ça déshumanise en réalité. C'est très bien, on peut être très fier de ça, on peut être très impressionné, on peut être, avoir les yeux pleins de papillons, de voir la magnificence, ne serait-ce que de la façade de l'Opéra Comédie pour prendre Montpellier, ou quand on est au pied de la cathédrale. Mais quand même, moi, quand je suis devant l'Opéra Comédie, ce qui me rend attachant ce lieu, c'est qu'on en a cramé 3 d'affilée en moins de 100 ans, qu'on en a fait un 4e momentané, qu'on ne savait pas quoi en faire, puis finalement, on l'a cramé aussi sans faire exprès. voilà, c'est ça qui est... Les Trois Grâces, où il y a une histoire d'arnaque du sculpteur qui a amené la mauvaise pierre, il a mis une pierre de mauvaise qualité, ce qui fait toujours que de nos jours, les vrais Trois Grâces sont dans le hall de l'Opéra.
Oui, elles sont à l'abri des intempéries.
Oui, parce que la pierre est de tellement mauvaise qualité qu'elle ne peut pas être dehors. Et c'est une arnaque du fournisseur, littéralement. On a fait un procès contre le sculpteur, on l'a perdu. Et que ça soit le symbole de la ville, moi j'adore ça. Je trouve ça bien plus attachant d'avoir ce petit sourire, la petite lumière au coin de l'œil quand on pense à ça, en fait.
Alors, les auditeurs, je suis en mesure d'ores et déjà de voir quel est votre état d'esprit, votre ton, votre approche. Un mot d'abord, votre activité s'appelle Taliesine. Alors, j'imagine que beaucoup d'auditeurs et auditrices, et moi-même, ne savons pas qui est ce personnage, racontez-nous, sur lequel, les auspices duquel vous avez décidé de vous placer.
Alors oui, parce que ce n'est pas du tout Montpellier. Taliesine, ou Taliesine, ou Taliesin, vous savez, on est dans une ville où on ne sait même pas comment on prononce correctement le nom de la ville, donc on ne va pas
Ah oui, moi je suis de ceux de la minorité qui dit Montpellier.
Vous êtes de Montpellier Montpellier. Vous savez que j'ai vu à la bibliothèque Émile Zola, il y a un livre entièrement dédié à ça. C'est une dispute qui n'est pas récente. Donc Taliesine, c'est un barde gallois qui vivait au 4e siècle après Jésus-Christ et qui est l'un des très rares, voire le seul barde dont on ait des textes.
Donc c'est un personnage historique.
C'est un personnage historique, mais il était tellement connu que la légende l'a attrapé. Et comme il vivait au 4e siècle, à la même époque que le légendaire roi Arthur, la légende en a fait le barde du roi Arthur. Et selon les versions du récit, parfois c'est le maître de Merlin.
Donc il a, dans la légende arthurienne, il joue un grand rôle du coup.
Il joue un rôle discret mais important. Ouais. On le mentionne alors que c'est un personnage historique dont on a des textes avérés. Donc comme c'est un personnage qui est à la fois dans l'histoire et dans la légende, et que la sonorité du mot est jolie, j'ai pris ça pour nommer ma compagnie.
À la fois dans l'histoire et dans la légende, vous avez dit, c'est une manière... me semble-t-il assez évidente de résumer votre approche. Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples de ce que vous proposez où, effectivement, dans un parcours dans la ville, se croisent, se conjuguent, se renvoient l'un à l'autre des éléments historiques que les grands historiens peuvent confirmer, et puis vous puisez aussi dans un fond d'imaginaire, dans les contes et légendes. Cet alliage ou cette alliance entre deux registres, comment vous le... Parce que ça vous caractérise en définitive. Ça, comment vous le montez, ça, comment ça se passe, ça?
Alors, y a beaucoup de choses différentes.
Parce que vous composez quelque chose.
C'est ça.
Il y a des lieux, bien entendu, et puis il y a des éléments de connaissances qui viennent s'appuyer sur des lieux.
Mes sources, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a des sources historiques, il y a des légendes locales qui sont très anciennes. La plus connue que beaucoup, je pense, ici connaissent, c'est la légende de Nostradamus et de la Tour des Pins, qui est une légende. Nostradamus a bien étudié à Montpellier, mais il n'y avait pas de pain sur le toit de la Tour des Pins à son époque. Donc, c'est venu après, ça. Historiquement, ça n'a aucun fondement.
Donc, la Tour des Pins, c'est boulevard Henri IV, hein, face au
Juste
jardin
en face
des plantes,
du jardin
pour
des
ceux
plantes,
qui n'auraient pas
voilà,
repéré.
Et il y a des arbres sur le toit qui sont des tuyas en peau de nos jours. Et la légende raconte que c'est, qu'ils sont là parce que Nostradamus, qui a donc fait ses études de médecine à Montpellier, a prédit que s'ils n'étaient pas là, la ville serait détruite.
Ah, il y a une prédiction.
On dit qu'il y a une prophétie de Nostradamus là-dessus. Sauf donc, comme je vous le disais, à l'époque de Nostradamus, la Tour des Pins était un ouvrage militaire parfaitement opérationnel et que donc il risquait pas d'y avoir des arbres sur le toit. Nostradamus n'a jamais vu de pins sur le toit de la Tour des Pins. C'est quand les pins ont poussé naturellement vers le 19e siècle, parce qu'il y a des photos, on voit les pins d'origine, ils existent, mais évidemment ils sont tombés après parce que c'était pas bien accroché. Que les gens ont rétrospectivement trouvé cette explication et que la légende est née. Voilà, ça c'est une légende classique de Montpellier. Moi ce que j'aime c'est que tout soit coordonné. En fait je suis très inspiré par un très grand conteur d'ailleurs qui passe ce jeudi au Théâtre Jacques Coeur je crois. Donc Yannick Jolin. Yannick Jolin a...
Théâtre Jacques Coeur c'est à Latte pour les auditeurs là, qui voudraient... récupérer l'info et aller à ce rendez-vous.
Je me trompe peut-être de théâtre, hein, mais...
Bon, bref.
Et Yannick Jolin fait partie des fondateurs d'un festival qui s'appelle le Festival du Nombril du Monde à Pougne-Hérisson, dans le Poitou. Pougne-Hérisson, c'est un village tellement minuscule que pour faire une commune, ils ont dû fusionner deux villages et c'est vraiment minuscule. Il y a Pougne d'un côté et Hérisson de l'autre. Et un jour, ils ont décrété qu'ils étaient le nombril du monde et que toutes les histoires du monde sont nées chez eux d'un Big Bang mythologique. Et tous les deux ans, il y a un festival du Nombril du Monde où on joue à être le centre du monde. Il y a même une année où ils avaient fait des gratte-ciels en carton pour dire qu'ils étaient une super ville et tout ça. Donc, ils se sont créés une mythologie pour mythifier leur lieu et le rendre plus magique, plus prégnant. Voilà, c'est tout ce que je fais, c'est un peu cette idée. C'est de rajouter cette couche de magie qui fait qu'on s'attache au lieu. Qui fait, pour justement utiliser un peu les concepts que Tolkien a développés dans une conférence, qui fait qu'on se nettoie les yeux de la grisaille du monde quand on passe devant certains lieux, parce qu'il y a une légende qui va vous la faire briller.
C'est ça, et qui vous inspire, qui vous embarque en quelque sorte.
Et c'est ça, et qui vous fait revoir tout d'un regard neuf, ce qui fait que la beauté de ce que vous avez autour de vous ne s'efface jamais. Et ça, c'est très important.
Et alors, une époque où l'éphémère fait ses ravages, donc cette approche peut produire.
Soit j'importe des contes traditionnels qui viennent d'ailleurs que je bouture à Montpellier, soit j'en crée. Et j'ai notamment créé tout un légendaire autour du concept que j'appelle la brume mythologique, qui serait un brouillard invisible qu'on respire à Montpellier, qui fait naître des histoires dans la tête des gens. Et comme beaucoup de légendes, en fait, l'une de mes bases, c'est d'aller dans des interstices sombres des faits historiques pour les éclairer.
Ah, c'est là que se croisent les deux approches.
C'est ça. C'est... Le meilleur exemple que je puisse vous faire, c'est que j'ai créé un mythe fondateur de Montpellier. Alors Montpellier, on le sait, il y a un document qui est l'acte de naissance officiel de Montpellier, l'acte de donation de Montpellier, donc qui fait naître Montpellier le 26 novembre 1985. Et ce document, donc, c'est le comte de Melgueil, l'actuel Mugio, et sa femme, Sénégonde, qui donne le Montpellier à un chevalier du nom de Guillaume.
D'accord, Montpellier,
Montpelliensis, à l'époque, voilà, et avec tous les mystères de l'étymologie de ce mot.
Oui, il y a plusieurs versions, là aussi.
Et le document dit que Guillaume reçoit cette récompense pour un service rendu, mais il ne dit pas quoi.
Ah, on ne sait pas lequel.
On ne sait pas. Alors évidemment, les historiens pensent à de nombreuses tractations en fait de géopolitique locale. Guillaume venait d'une famille assez puissante, marchande de l'Odève, qui avait déjà beaucoup de terres et d'implantations sur le long de la vallée de l'Hérault. Mais moi, du coup, je vais là et je raconte la légende qui explique ce que Guillaume a fait pour mériter cette récompense. Et là, on entre dans le fantastique, dans le légendaire, dans une histoire de fées, de drac, de cauchemar, qui fait que la ville est implantée ici, qu'il y a ce brouillard mythologique qui pousse.
Alors, on a une idée du voyage que vous proposez dans vos itinéraires commentés, comptés, dans Montpellier. Autre exemple de personnage, qui incarne ça. Donc, vous apportez un éclairage sur des personnages historiques, bon, avérés, véridiques, mais en les éclairant ou en leur donnant une aura particulière.
Complètement. Si vous voulez un autre exemple, j'ai le fondateur du musée Fabre, François-Xavier Fabre, donc, qui est à l'origine du musée Fabre, hein, donc en 1828. Et à une époque où j'avais fait un travail en collaboration avec le musée, en discutant avec des gardiens du musée, ils me disaient « Mais vous savez qu'il y a une légende d'ici, je suis sûr que c'est une légende qui existe, qui dit que la nuit, on voit parfois François-Xavier Fabre en peignoir se balader dans les couloirs du musée. »
Ah.
Écoute, je me dis « Pourquoi en peignoir ?»
Parce qu'il est chez lui.
Ben exactement, en plus. Et donc, j'ai créé le conte qui explique ça. Et pour le créer, j'ai adapté un conte traditionnel chinois qui est l'histoire d'un portraitiste de légende qui est convoqué par, on va dire, le père des cieux. Mais à chaque fois, il rejette la mort parce qu'il a quelque chose à finir. Et au final, il devient la personne qui fait les portraits de tous les gens qui sont à naître. Et donc, je raconte
des
à
gens
les gens,
naître, d'accord.
Je raconte que maintenant, François-Xavier Fabre a peint le portrait de tous les gens nés sur Terre. Mais que, quand il prend sa pause, il a exigé de pouvoir revenir dans son musée la nuit, en peignoir, pour se balader dans les couloirs de son musée.
Donc, on voit pour les habitués du musée Fabre, bon, vers quels horizons vous invitez les gens que vous accompagnez. Un mot, comment ça se passe là, si on est intéressé, à voir sur votre site internet, j'imagine.
C'est ça, oui, taliesine-tourisme.com. On peut réserver les places et payer les places directement en ligne. C'est 18 euros en tarif plein, 12 euros en tarif réduit.
Ça dure combien de temps, grosso modo, la balade?
Ça dépend un peu du nombre de personnes, mais on est autour de entre 1h40 et 2h,
ah,
selon,
oui, quand même, oui.
Selon comment on discute, selon comment on balade. Vous savez, visite de l'Office du tourisme aussi, c'est dans les 2 heures, hein, en général. Souvent, c'est court, hein, pour visiter la ville. Et donc, il y a plusieurs parcours. Un parcours où, à chaque étape, on vote pour savoir quelle est la suite du parcours. Un parcours plus horrifique, à la recherche du grand croque-mitaine de Montpellier. Il y a un parcours plus féerique dans le jardin botanique. Il y a un parcours peut-être plus Da Vinci Code dans l'école de médecine.
D'accord. Est-ce que ça peut induire aussi d'histoires Très bien. Alors, je crois que vous avez... j'ai indiqué que vous chroniquiez depuis fin octobre dans la Gazette. Vous avez tenu les chroniques à France Bleu Hérault, là,
oui,
cet
pendant
été.
L'été, oui.
Peut-être qu'ils reprendront là, l'été prochain, avec des rendez-vous de même tonneau, je dirais, de même esprit. Et là, vous avez un projet de podcast. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, alors qui va être très, très ouvert sur plein de choses. Mais la base de mon podcast, c'est un concept que j'ai déjà fait sur scène qui s'appelle les nations imaginaires. Et c'est d'explorer les cultures de l'imaginaire, les grandes œuvres de l'imaginaire et le rapport que ça a avec les gens qui vraiment les vivent de manière très intense dans la construction de soi. Autrement dit, tous ces gens qui se sentent autant appartenir à Poudlard qu'à la France, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Et comment l'imaginaire nous aide à nous construire.
Et vous avez des jeunes visiteurs, parce que je me dis que, je pense que, je vais dire une banalité, mais à l'adolescence, je dirais, l'imaginaire, la fiction, bon, se croisent bien sûr avec la vie réelle. Et vous avez de jeunes visiteurs, là, bon, qui...
Ça arrive, qui, oui, j'ai eu des classes de primaire. Alors, je ne prends pas trop petit, parce qu'il faut justement avoir ce rapport à l'imaginaire qui fait qu'on sait bien faire la distinction entre la fiction et le réel. Donc, en général, je recommande de ne pas venir avant 9-10 ans pour profiter pleinement de l'expérience, même si c'est arrivé, hein, bien entendu. Et effectivement, les collégiens, notamment, en général, sont très contents... Même si souvent ils se moquent de moi parce qu'ils disent « Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis
!» D'accord. Alors, on a quelques secondes, mais donc réponse courte. Vous aimez profondément Montpellier, vous l'avez démontré. Et au bout du compte, alors compte comme on l'appelle comme on veut, c'est au même PTE, c'est NTE. Est-ce que cet amour pour Montpellier, ce n'est pas la principale raison, la plus vibrante là, de proposer cette activité? L'amour de Montpellier que vous souhaitez partager?
Complètement. Il y a vraiment ça. Et j'ai une manière d'exprimer cet amour qui est peut-être plus malicieuse que ce qu'on imagine d'habitude, mais c'est vraiment, vraiment ça. Je le répète souvent, c'est presque une espèce de devise. Moi, mon métier, c'est plutôt de faire connaître la ville, c'est de la faire aimer.
Eh bien voilà, un excellent mot de clôture de ce rendez-vous. Merci Benoît Ramos.
Je vous en prie, merci de l'invitation.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.